Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Aujourd'hui, dans votre magazine Au bout de la plume, sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles, nous allons parler d'un livre pour combattre les préjugés liés à l'âge. Ce livre, c'est « Tu comprendras quand tu seras vieux », écrit par Véronique Caillado. Donc pour en parler, nous la recevons.
No.
Véronique Ayado, bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie?
Alors moi, je suis ingénieure de recherche en psychologie. Je suis docteur en psychologie et je travaille au sein de l'Institut WeCare en lien avec le vieillissement et la vieillesse.
Et concrètement, comment vous pratiquez votre métier?
Alors mon métier, il y a plusieurs aspects. Il y a à la fois de la production de contenu en lien avec des études, des enquêtes qui sont menées au sein du groupe WeCare, de la production d'articles, donc de livres également. Et puis je réponds aussi aux besoins des différentes marques du groupe sur tous les sujets un peu plus métiers en lien avec le développement d'outils ou d'aspects plus en lien avec de la formation, des nouvelles approches qui peuvent être développées.
Et concrètement, quelle est votre formation de base ?
Alors moi j'ai une formation, pas forcément en gérontologie, puisque j'ai un parcours classique en psychologie. J'ai commencé à Nantes et que j'ai poursuivi à Toulouse. Donc à mon époque c'était bon, le DEUG, la licence, la maîtrise et puis le DEA, suivi d'un doctorat en psychologie sociale du travail et des organisations, parce que mon premier sujet de recherche c'était plutôt autour de la question du genre et du travail. Et en l'occurrence ma thèse portait sur l'insertion de femmes dans les métiers dits masculins.
Et comment on devient docteur en psychologie et ingénieur de recherche pour un institut ?
Le parcours classique, un petit peu. Moi, j'ai fait pas mal d'interventions à la faculté en psychologie, bien sûr, comme chargée de TD ou attachée temporaire d'enseignement et de recherche. Et le parcours classique, c'est plutôt effectivement l'université. Moi, la vie a fait que j'ai eu un petit changement dans ma vie qui m'a conduit à déménager. Et donc, j'ai intégré des contrats d'ingénieur de recherche donc pour des universités, mais qui étaient des contrats plutôt temporaires. Et donc, le groupe WeCare, à l'époque, c'était la société O2, avait pour volonté de développer, parce que c'était quand même une démarche assez innovante, de pouvoir introduire un petit peu de science humaine dans leur approche du métier, parce qu'ils développaient des accompagnements seniors, donc à destination des personnes plus âgées. Et ils avaient envie d'éclairer le développement de cette activité avec des études appliquées, avec des revues de la littérature, enfin voilà, essayer d'être un peu plus aux pointes pour accompagner le développement de cette activité. Et le hasard a fait que donc je suis arrivée au Mans en 2013. Donc, je suis pas d'origine tarte, mais j'y ai fait toute ma famille.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet institut WeCare ? Comment il fonctionne notamment ?
Alors, au tout début, c'était un institut de recherche O2 qui avait été créé. Et comme la société a beaucoup évolué, donc on est devenu WeCare. À l'origine, on était trois dans l'institut WeCare. C'est essentiellement moi qui interviens sur le côté sciences humaines, parce que voilà, c'est vraiment mon périmètre à moi. Donc, c'est pas une grosse machinerie, je vais dire, parce que c'est quand même très qualitatif. C'est-à-dire qu'on répond aux besoins des différentes marques qui montent des enquêtes. Donc, moi, j'injecte tout mon périmètre, toute mon analyse en lien avec mon éclairage plutôt psychologique. Enfin, je dirais même plutôt socio-psychologique, parce que je ne suis pas clinicienne. Souvent, quand on entend psychologie, on entend, c'est vrai, plutôt la psychologie clinique avec Freud ou la psychanalyse. Mais voilà, moi, je suis plutôt du côté de la psychologie sociale. Donc voilà, ce n'est pas une grosse machinerie, c'est un travail qualitatif, ça va être des entretiens. Donc, pour vous donner peut-être un exemple concret, une des sociétés du groupe s'appelle Silver Alliance et elle mène un certain nombre d'opérations, l'opération Rêve de Senior, qui est de changer un petit peu le regard qui est porté sur le vieillissement de la vieillesse en montrant que, quel que soit l'âge, on peut encore avoir et vouloir réaliser des rêves, qu'ils soient existentiels, un peu fantaisistes ou autres. Et donc, moi, je m'intègre dans cette opération pour voir l'impact de la réalisation de ces rêves chez les personnes en les rencontrant avant et après, donc des entretiens avant et après la réalisation du rêve. Et l'idée est, une fois qu'on aura un échantillon de population assez significatif, pouvoir communiquer, analyser les résultats et diffuser les résultats grand public ou dans des revues plus spécialisées.
Et sinon, vous avez sorti un premier livre, hein, Tu comprendras quand tu seras vieux. Déjà, comment vous êtes mise à l'écriture ?
Alors déjà, moi, c'est quelque chose que j'adore, le travail d'écriture. Même pour écrire, souvent, il faut déjà beaucoup se perdre. Hein. Pour arriver à de la production, il y a tout un travail un petit peu de cheminement, de consulter ce qui se dit, de lire, d'aller se perdre dans les, j'allais dire, les membres, articles, des vidéos qu'on peut trouver. Et pour après arriver à une phase plus de production. Pour ce livre, en fait, quand je vous dis ce travail un petit peu de recherche, on allait en voir ici et là, c'est surtout pour la production d'articles que je réalise sur le blog WeCare, sur le blog Autonomia, ou sur différents société du groupe. Mais pour le livre, en l'occurrence, c'était déjà quelque chose que j'avais beaucoup travaillé à l'université. Je vous disais que je donnais des cours de TD et parmi les cours, il y avait forcément la question des stéréotypes, parce qu'en psychologie sociale, ça fait partie des thématiques un petit peu phares. La question du stéréotype, quel qu'il soit, pas forcément lié à l'âge. Là, c'est le thème de mon livre, mais ça peut être des stéréotypes liés à d'autres groupes sociaux plus stigmatisés, que ça soit par rapport à l'origine ethnique, la couleur de peau, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle. Enfin, voilà, c'est très large. Et comment ces stéréotypes-là, eh ben, ils vont influencer la perception, la communication, les comportements, la performance. Donc, ça, c'était déjà des choses que j'avais beaucoup travaillé à l'université. Et forcément, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de la vieillesse, on a tous plus ou moins des représentations autour de ce temps de la vie et elles sont pas forcément toujours concordantes parce qu'il y a aussi des images un petit peu de sagesse, de valorisation de l'expérience. Mais dans notre société, il faut quand même le dire que ce qui est mis en avant, ce qu'on considère en premier avec le vieillissement, c'est plutôt la notion de déclin et de perte des capacités avec en fil rouge cette idée que plus on vieillit, moins on est un citoyen à part entière. Il y a une inégalité des droits qui se diffuse petit à petit où on n'a plus tout à fait dans le rapport au risque, le rapport à ses propres choix de vie. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Donc forcément, ça m'a interpellée sur cet aspect-là. Donc j'ai voulu m'accaparer ce sujet de l'âge à travers ce prisme des stéréotypes. Donc j'ai poussé ce travail de recherche, de lecture. C'est pas un sujet qui est nouveau, hein, parce que si on met un terme sur ces phénomènes de modification de la pensée et de discrimination liée à l'âge, ça s'appelle l'âgisme, un petit peu comme dans sexisme ou racisme. On entend le suffixe isme. Donc il y avait déjà un nom depuis longtemps. C'est un gériatre américain qui, fin des années 60, si je me trompe pas, avait développé concept pour mettre en avant justement cette déconsidération liés aux plus âgés dans la société américaine. Et en France, ça met beaucoup, beaucoup de temps à prendre matière, on va dire. Surtout que souvent, quand des groupes qui sont stigmatisés ou qui sont sujets à discrimination, ben c'est plus eux qui vont revendiquer à travers un mouvement d'émancipation, comme ça a pu être pour les femmes, comme ça a pu être pour les Noirs aux États-Unis. C'est souvent ces groupes qui sont discriminés qui vont revendiquer une égalité de droits. Mais en fait, les préjugés liés à l'âge sont tellement intériorisés, tellement normalisés, c'est même pas venu comme ça. C'est plutôt la loi et puis peut-être aussi le changement de génération qui avance dans le grand âge et qui refuse d'être placé à un endroit donné et qui refuse un petit peu ses places assignées, qui a accéléré le mouvement, mais c'est plutôt venu par des lois au niveau de l'Europe que la France était obligée d'appliquer dans le monde du travail et puis contre les discriminations. Et petit à petit, ce sujet a commencé à apparaître, mais on est quand même, je dirais, plutôt encore à une phase de frémissement. Mais on sent que ça interpelle les gens. On n'est plus dans l'acceptation comme quelque chose de normal. Là, on se dit, ben non, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la logique, qui n'est pas naturelle, et on peut changer le rapport qu'on a avec cette notion d'âge.
destin, on en pose un, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emporte au creux de mon antre des poussières de toi.
En effet, hein, les stéréotypes influent sur la manière dont on va vieillir. Il me semble que ceci repose sur des études.
Oui, alors là, je pense que vous faites référence au travail d'une psychologue sociale américaine qui, elle, s'est intéressée à l'impact des stéréotypes, mais à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire plus à travers la communication et les interactions interpersonnelles. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, on a intériorisé les stéréotypes associés au déclin. Le déclin cognitif, hein, donc plutôt en lien avec la mémoire, le déclin des capacités physiques. Et c'est tellement prégnant que c'est très présent chez les enfants. Déjà, j'ai l'âge de 4 ans. Les chercheurs ont pu observer une interprétation d'une situation différente juste du fait de l'âge de la personne. C'est-à-dire, à même comportement, l'âge de la personne va donner une interprétation différente, plus en lien avec, bon, bah, elle s'est trompée parce que, avec l'âge, elle est plus âgée, elle est moins en capacité d'avoir une réflexion ou mémoire. Enfin, voilà, c'est autour de ça. Et ils ont également montré que le comportement des enfants pouvait être différent. Mais là, on était plutôt chez des enfants de 7-8 ans, si je ne me trompe pas, où ils allaient avoir une manière de parler plus ralentie, avec des phrases plus courtes, hein, ce qu'on appelle le langage un peu plus infantilisant bébé. C'est-à-dire qu'ils allaient associer la manière de parler à la personne du fait de son âge. Rien que du fait de son âge, pas par rapport à ce qu'ils avaient pu comprendre de ses particularités de santé ou autre. La chercheuse en question a montré que des personnes qui avaient intégré, intériorisé plutôt une image positive du vieillissement, donc elle a observé plusieurs groupes de sujets, et à ceux qui avaient une image plus positive du vieillissement, eh bien, montraient 10-20 ans après une espérance de vie supérieure aux autres de 7 ans et demi et une meilleure santé fonctionnelle. Donc, si on le prend dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on a intériorisé une vision négative du vieillissement centrée sur la notion de déclin, de perte et de déficit, eh bien, ça agit de l'intérieur et ça a un impact sur notre espérance de vie et sur notre santé. Donc, on n'est pas seulement sur la question de la discrimination, on est aussi sur une question de santé publique.
Et concrètement, quel est le but de votre livre ?
Ben, le but de mon livre, c'est un petit peu d'interpeller, parce que ça nous concerne tous. Si on meurt pas, on vieillit. Hein. Le vieillissement, ça commence très tôt et les effets se manifestent différemment selon les personnes. Ça peut commencer plus ou moins tôt, mais on vieillit tous. Donc, si on est tous concernés par ça, on a tous des proches. Et nous-mêmes, on peut se projeter dans le grand âge et ce qu'on voudrait de la manière dont on voudrait vivre avec les autres. Donc déjà, c'est un premier élément. C'est très égoïste. C'est pour soi-même. Dans quel environnement je veux pouvoir vivre? Est-ce que je veux être considéré comme un objet de soin qu'on va placer ci et là parce que je serai vieille et puis déconnectée, ou est-ce que je veux continuer à pouvoir avoir un espace de vie qui me correspond et où je peux encore agir sur mon quotidien? Ça, c'est un premier élément. Et puis après, c'est parce que moi, j'ai une sensibilité de travailler au sein du groupe WeCare auprès donc beaucoup de sociétés d'aide à la personne avec des professionnels qui interviennent auprès de personnes plus âgées. Ça me semble, voilà, quelque chose de l'ordre d'une démarche de bientraitance, de pouvoir prendre de la distance aussi avec ces représentations, ces stéréotypes par rapport à l'impact que ça peut avoir inconsciemment sur nos pratiques. Et donc, voilà, ça fait aussi partie de l'accompagnement des professionnels que d'avoir une sensibilisation, une prise de recul par rapport au poids des représentations sur les pratiques et comment un petit peu s'en détacher pour s'inscrire dans une démarche d'égalité dans le rapport d'accompagnement.
Oui, donc un des buts, c'est bien de former le professionnel de santé.
Mais pas que. Je l'ai orienté là-dessus, mais c'est aussi grand public. Je l'ai vraiment conçu comme ça, ce livre-là. C'est-à-dire que moi, j'ai cette sensibilité-là du fait de travailler auprès de personnes, auxiliaires de vie, d'aide à domicile. Mais en fait, c'est pas que ça. Je l'ai vraiment pensé grand public. Et comme je vous le disais, on est tous concernés. C'est tout à chacun. Moi, j'aimerais pouvoir faire des interventions auprès de plus jeunes sur cette thématique, auprès de jeunes seniors également, au cours d'ateliers, même dans le monde du travail. Là, dans mon livre, je parle effectivement de personnes plus âgées, mais on peut transplanter ça, transférer les mêmes questionnements des seniors dans le monde du travail. Donc voilà, c'est une réflexion beaucoup plus large et je l'ai vraiment grand public en essayant à la fois de m'accrocher effectivement à des expériences plus en lien avec mon domaine d'exercice, mais également des expériences plus scientifiques pour parler au plus grand nombre de personnes.
Alors c'est bien un livre, un manuel anti-préjugés si on peut le dire ainsi. Comment vous l'avez écrit concrètement ?
Alors, j'avais déjà une base, parce que comme je vous disais, j'avais déjà fait plusieurs enseignements autour de la notion de stéréotype à l'université. Donc, ça m'a permis de construire un petit peu ma logique. Ma logique, c'était d'abord de montrer comment les stéréotypes impactaient notre perception, notre mémoire, notre compréhension, notre analyse. Et hop, à chaque fois, je greffais des exemples en lien avec l'univers plus gérontologique, avec par exemple l'impact des stéréotypes sur l'analyse et le diagnostic qui pouvait être formulé par des soignants. Donc à chaque fois, j'ai greffé comme ça. Donc voilà, c'était ma première partie. C'était bien comment après, la manière dont on perçoit quelque chose a un impact sur la communication qui peut à son tour impacter les comportements des gens. Donc voilà, je suis repartie encore la psychologie sociale et hop, à chaque fois, je viens greffer des travaux et des expériences et des analyses plus en lien avec le domaine de la gérontologie. Voilà, j'ai poursuivi ainsi. Donc, dans le livre, il y a plusieurs mécanismes. Il y a un mécanisme qui a un nom que je trouve assez évocateur, qui est la menace du stéréotype. Et la menace du stéréotype, donc pareil, je reviens greffer des éléments de psychologie sociale et à chaque fois, je rééclaire ce phénomène lié à l'expérience du vieillissement, en citant des expériences qui ont été menées dans ce domaine-là. Donc, par exemple, pour en dire un petit peu plus sur la question du stéréotype, c'est pas lié à l'intériorisation, comme on évoquait à l'instant, le fait d'avoir intégré et assimilé pour soi la vieillesse comme déclin, c'est plutôt une situation qui vous menace, c'est-à-dire une situation qui met en avant un stéréotype qui est associé à votre groupe d'appartenance, donc en l'occurrence l'âge. Donc si dans une situation où vous vous percevez tout à coup, où on vous fait comprendre que vous êtes plus âgé que tous les autres, ça va mettre en lumière le stéréotype qui est associé à cette classe d'âge et ce stéréotype-là, il va venir un petit peu vous brouiller le cerveau. C'est un peu le phénomène, c'est-à-dire qu'il va vous déconcentrer, il va vous prendre de la bande passante et cette bande passante, le fait qu'elle soit occupée par ce stéréotype, ça va avoir un impact sur vos performances. Donc, chez les plus âgés, ça a été observé sur des tests de mémoire, ça a été observé sur des tests de marche, mais le même phénomène a été observé chez des filles, chez des groupes de filles, avant-après exposition à ce stéréotype chez les filles, en l'occurrence, c'est que les filles ont des capacités moindres que les garçons en mathématiques, par exemple. Et bien, même si les filles n'adhèrent pas à ce stéréotype, ça va leur prendre de la bande passante et statistiquement parlant, les résultats montrent des performances en lien avec la menace du stéréotype. Et c'est la même chose donc chez les plus âgés. Mais on se dit qu'à chaque fois, en fait, c'est la redondance, c'est le côté systématique, en fait. Une personne qui, à chaque fois, se retrouve perturbée par ces stéréotypes qui sont partout présents. On ne s'en rend pas compte à quel point ils sont présents, ces stéréotypes. Eh bien, la récurrence de cette confrontation, finalement, peut aussi avoir un impact. Elle-même se dire, j'y arrive plus, en fait. C'est vrai, je décline. Et voilà, c'est essayer d'éclairer au maximum avec des théories liées à la psychologie sociale, autrement, ce qui peut se passer avec le vieillissement.
Et sinon, ce livre, où peut-on l'acquérir ?
Alors, le publié aux éditions du Palio, vous pouvez le trouver normalement sur commande dans n'importe quelle librairie à côté de chez vous, et bien sûr sur Internet également. Donc sur commande ou directement, il se peut aussi que les libraires en aient des stocks, mais sinon, vous le commandez et vous le recevez par leur intermédiaire rapidement ou sur le net.
Avez-vous des contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur votre travail et notamment sur ce livre ?
Alors, pour livre ou sur les stéréotypes, il y a une adresse mail dédiée à l'Institut où les personnes peuvent me contacter, institut.wecare, donc institut INSTITUT point wecare @ wecare.com.
Avez-vous des projets en perspective ?
Pas tout de suite un autre livre, mais beaucoup de choses en lien avec ce livre. J'aimerais effectivement pouvoir développer des formations au sein de l'Institut WeCare, voilà, pour sensibiliser, donc des formations grand public. J'ai vous évoqué les écoles, voilà, c'est quelque chose auprès des plus jeunes qui me semble pertinent. Les formations auprès des écoles dans le médico-social, par exemple, voilà, ça fait partie de mes projets pour cette année.
Un mot à rajouter ?
Ben, merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des interrogations ou des questionnements qui vous sont venus, n'hésitez pas à me joindre via cette adresse mail.
Alors Véronique Caillado, je vous remercie et j'espère qu'à travers cet échange, on aura donné envie à nos auditeurs de lire ce livre, hein, Tu comprendras quand tu seras vieux. Et voilà, un livre qu'on peut qualifier de manuel anti-préjugé, notamment anti-préjugé sur l'âge. Je vous dis au revoir.
Merci, au revoir.
J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up ça ne va pas mieux, j'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma pisse, testent ma prostate, me parlent d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan, style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile à pré-retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, tu veux que je fasse du jogging, attraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting. Ça sonne faux, je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Appeler les forces des ténèbres, dévertébrer le verbe de toutes mes lèvres. Pour devenir celui qui gambadait dans l'herbe, je lève la main gauche et déclare avec verve être prêt. Pour la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer. Je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan Klux Klux. Sois, viens à moi, tu deviendras explosif comme l'Etna. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Qu'est-ce qui se passe, je me sens revivre de vieux papillons. Je passe à chrysalide, j'étais impotent. Maintenant m'appostant comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps, jeune fun. Je brille comme un gun neuf, j'ai du sang neuf. Je veux 1000 meufs, plus 1000 potes de Bangkok à Elbeuf. Le tout si possible arrosé de 1000 teufs. Car tout est vicié, cercle vicieux. Là-bas la vessie, ici la calvitie. À toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre. La jeunesse éternelle pour réécrire mon œuvre. Résurrection, retour de l'érection, de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido. Des nuits brèves, des alibis bidons pour réécrire. Le rêve, elle, belle, citadelle assiégée par une armée rebelle. Moi, en émoi, escaladant la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Vers le sonotone, 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 vers le sonotone.
J'aurais voulu te dire que je m'en vais.